On vous propose un peu un format pour cette conférence de presse, c'est qu'on a envie de prendre la parole pour énoncer un certain nombre de choses sans être interrompu, et après on pourra laisser 15 minutes pour les questions. Et du coup, on fait partie d'un groupe dit d'automédias sur le camp VMC, donc à la gare de Luméville. Et donc on intervient ici en tant que participants et participantes au camp, comme il y en a énormément d'autres. Et on s'est dit que ça pouvait, même si c'est pas trop dans nos pratiques, de faire des conférences de presse sur ce mode-là, parce que ça nous parle pas forcément tout le temps, on se disait que ça pouvait être l'occasion de vous donner un peu des informations sur ce qui se passe là-bas, et de peut-être aussi remettre un peu en question des choses qui circulent déjà dans la presse, qui peut-être proviennent de propos qui ont été déformés, etc., et de pouvoir un peu anticiper certaines mauvaises informations qui pourraient circuler, parce qu'on a un peu l'habitude de voir beaucoup de choses déformées dans les médias de manière habituelle. Du coup, on a envie de prendre ce moment-là pour avoir un message clair à vous donner. Mais ce n'est pas forcément tout le temps dans nos pratiques de faire ça. Voilà. Ce qu'on voulait dire, c'est que la parole là, qu'on va délivrer, c'est pas une parole homogène, et c'est pas une parole qui est totalement représentative de ce qui se passe sur le camp, parce qu'il y a une grande richesse de personnes. Et que on n'a pas pour vocation à dire ce que pensent tous les participants du camp. On est là pour dire un petit peu les objectifs du camp, le programme, comment ça va se dérouler, et des positions politiques qu'on a envie de communiquer à tout le monde. Voilà, pour préciser un peu, ce campement-là, il est préparé depuis un an par un certain nombre de personnes, un collectif qui est assez nombreux, d'une soixantaine de personnes, et qui s'inscrit en fait dans une lutte qui est beaucoup plus longue, parce que la lutte ici, elle a déjà commencé. Il y a d'autres personnes qui sont engagées dans cette lutte, et le camp VMC se veut un peu dans la continuité de ça. Et nous, ce qu'on amène comme particularité à ce campement-là, c'est qu'on a des principes qui sont basés sur l'anti-autoritarisme, l'anticapitalisme et l'autogestion. Et voilà, c'est un peu des valeurs qu'on porte collectivement.
Du coup, je vais essayer de revenir un petit peu sur les motivations de ce camp-là. On est... Le collectif qui a organisé ce campement représente une soixantaine de personnes qui sont issues de luttes très diverses et qui ne sont pas géographiquement localisées, c'est-à-dire que c'est des groupes qui viennent un petit peu de toute la France et d'ailleurs, et pas non plus des luttes spécifiquement anti-nucléaires, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'autres composantes dans ce campement-là, dans l'organisation de ce campement-là. Et dans les motivations qu'on avait, en fait, il y avait plusieurs volontés qui se recroisaient, à la fois celle de réagir à la COP21, au sommet qui a lieu en fin d'année sur la question du climat, mais aussi, et ce qui est très important aussi pour nous, une nécessité de trouver des manières de résister tous ensemble à des grands projets d'aménagement du territoire. C'est des luttes qui étaient très fortes ces dernières années et qui résultent de logiques capitalistes qu'on rejette et qui sont souvent, ces projets-là, imposés de manière autoritaire, voire violente. Ces projets-là, il y a par exemple l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, dont on a beaucoup parlé. Il y a le barrage de Sivens ou le Center Park de Roibon. Il y a aussi le train à grande vitesse du Val de Souza. Et au-delà, parce qu'on a aussi envie d'avoir des connexions beaucoup plus fortes, et on a ces connexions déjà, avec des personnes qui sont engagées contre l'extraction du charbon en Rhénanie, en Allemagne. Mais aussi des projets comme les mines d'or à Roșia-Montana, en Roumanie, ou l'autoroute de Khimki en Russie, qui malheureusement a été construite malgré une opposition qui a été réprimée dans une violence extrêmement forte. Voilà, c'est des projets, la liste n'est pas exhaustive, on s'est rendu compte que des grands projets comme ça, il y en a beaucoup plus, il y en a partout. Et en fait, il y a une volonté de toutes les personnes qui veulent se réapproprier leur vie et ces territoires-là de se rejoindre dans une même logique et de partager des expériences. Après, la question du nucléaire, pourquoi elle rentre dans cette question-là? C'est parce que pour nous, le nucléaire, c'est aussi un grand projet qu'on nous impose. Et pour nous, il n'est pas à déconnecter de ces autres luttes de territoire notamment. Au-delà, il y a la question de l'immigration aussi, qu'on ne veut pas oublier, la question de la lutte contre les frontières, et de manière aussi transversale, la question de la répression, qui est extrêmement présente, parce qu'aujourd'hui, quand on lutte, en fait, ça fait partie de nos luttes. On est obligé en fait d'adapter notre manière de vivre et notre manière de lutter à une répression qui est de plus en plus accrue. Du coup, cette dimension-là, elle est aussi très forte dans ce camp-là. Donc quoi, la question de la répression, la question du système sécuritaire de manière générale. Cette année, on s'est encore rendu compte que voilà, c'est plus, c'est au goût du jour plus que jamais avec la loi sur le renseignement. Et voilà, ça a des répercussions sous couvert d'antiterrorisme. On a aussi des répercussions sur les luttes qu'on porte, avec une répression toujours plus accrue sous des formes qui nous assimilent nous, si on porte une certaine forme de lutte, à des terroristes. Et voilà, c'est aussi pour nous extrêmement important de rappeler ces choses-là. Comme on a dit, le campement il est anti-autoritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une réflexion très forte sur les structures de domination, sur les rapports de domination qui existent dans la société, mais aussi parmi nous. C'est pour nous extrêmement important de réfléchir à ces questions-là, parce qu'on est opposé au sexisme, on est opposé au racisme, on est opposé à l'âgisme, à toutes les formes en fait de discrimination basées sur des catégories qui sont construites et que nous, on essaye de déconstruire. Le fait d'être anti-hiérarchique, ça implique qu'il n'y a pas de leader, qu'il n'y a pas des gens qui prennent des décisions. C'est extrêmement important de comprendre, et c'est toute la logique de ce camp, et ça marche déjà bien sur le premier jour. Sur les premiers jours, on s'est rendu compte que ça marchait merveilleusement bien. Les gens prennent tous part à l'organisation collective, à la construction du camp, à la mise en place des structures, à la réflexion, aux discussions. Et en fait, on essaye de respecter cette horizontalité, parce qu'on a tous envie de cette horizontalité, et on s'aperçoit qu'en fait, ça fonctionne. Et il y a aussi l'envie de se respecter les uns les autres, d'essayer de pas empiéter les uns sur les autres. Donc aussi, la question, du coup, on s'est rendu compte que ça nécessitait aussi de créer cet espace sans drapeau et sans hymne, et sans couleur politique, et sans rapport marchand, parce que toutes ces choses-là, on s'est rendu compte que ça impliquait et ça créait des rapports entre nous qui étaient biaisés, qui créaient des formes de hiérarchie. Du coup, ça, c'est quelque chose qui est pour nous banni. Toute personne est libre de venir à condition qu'elle vienne en tant qu'individu, en tant que personne. Et c'est ça qui est extrêmement important pour nous. Je vais en finir sur la question du contenu. Nous, ce qu'on a voulu, c'est que ce camp-là soit essentiellement un moment de rencontre et de discussion, ou en tout cas en grande partie, qu'on puisse avoir le temps de se rencontrer, qu'on puisse avoir le temps de discuter des sujets qui nous préoccupent. Et qui doivent permettre à nos réseaux de partager des expériences de vie et de lutte qui sont extrêmement importantes pour nous. Parce que si on ne partage pas, si on ne fait pas ce partage-là, on ne va pas réussir à aller de l'avant. Donc on a besoin que ce moment-là soit possible. Et en fait, on a voulu créer un cadre en fait, pour que ce soit possible. Dans l'idée aussi, effectivement, de bâtir des stratégies communes entre toutes ces luttes-là et au-delà des frontières. Parce que si on est pour l'abolition des frontières, ça doit aussi se répercuter dans nos luttes. On a envie de construire des réseaux qui vont au-delà des frontières. Donc le programme en lui-même, et je vais essayer de détailler un petit peu dans les grandes lignes, chaque jour de la programmation est axé autour de grandes discussions, de grands axes de discussion. On a affiché le programme ici, on en a distribué à travers le camp, et il est disponible pour tous, il est sur le site internet. Le programme, il est... alors je ne l'ai pas sous les yeux. Je ne sais pas si vous l'avez. Désolé. L'improvisation, ce n'est pas toujours évident. Donc on a une première journée qui est axée essentiellement sur la lutte locale, donc c'est aujourd'hui, c'est lundi. Axée sur la lutte locale, ça veut dire que pour nous c'est extrêmement important d'ancrer notre présence ici dans un rapport vraiment dans un rapport de construction collective avec la lutte locale, avec les gens qui portent la lutte locale contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires sur place depuis des années, depuis bien plus longtemps que nous-mêmes on a pris conscience de cette question-là ici. Donc c'est toute la journée d'aujourd'hui avec une discussion, une présentation de la lutte qui a eu lieu ce matin et cet après-midi aussi des rencontres, des balades et on va manger ensemble à Mandres ce soir. La deuxième journée, elle est axée sur la question, la double question de la lutte contre les frontières. Comment est-ce qu'on lutte avec les migrants? Comment est-ce qu'on soutient les migrants dans leur situation? Comment on construit des réseaux internationaux qui nous permettent de mener ces luttes-là? Et en arrière-fond, il y a cette question de la répression. Il y a une grosse dimension aussi de cette journée autour de la question des violences policières, de la répression en général, des armements de la police, parce qu'on a aussi dans nos luttes beaucoup de gens. On a commencé à constater que beaucoup de gens étaient blessés par les armes de police. Et c'est quelque chose aussi qui nous paraît important. Il nous paraît important d'échanger sur ça parce que ça conditionne la manière dont on lutte, ça conditionne la manière dont on se positionne dans l'espace public. Donc c'est extrêmement important. Cette journée-là donc sera axée sur la question des frontières et les violences policières de manière générale, la répression des mouvements politiques en particulier. La journée du mercredi est axée intégralement sur la question des luttes de territoire. Donc il y a les luttes de territoire en ville et les luttes de territoire à la campagne. Ce qu'on appelle lutte de territoire, c'est ce qui a été souvent improprement qualifié par le terme ZAD. Les luttes de territoire, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est l'opposition à des grands projets, mais pas seulement. C'est aussi une opposition à des grandes logiques de transformation des territoires, de transformation des terres agricoles. Et aussi en ville, la question des grands projets urbains, comme le Grand Paris, ou des grands projets de rénovation urbaine, et tous les processus de gentrification. Donc toute cette journée-là a pour vocation de revenir sur ces luttes-là, en particulier aussi avec des regards croisés entre les différentes luttes, notamment Notre-Dame-des-Landes.
Est-ce qu'on peut, après ?
On pourra
plus.
En fait, on a prévu ça comme ça, du coup on va aller au bout de ça, et après vous pourrez poser les questions.
Voilà. En fait, il y a d'autres personnes qui sont intéressées par le programme, si vous ne l'êtes pas, peut-être. Que... Voilà, je vais finir, il y a encore deux jours. Le jeudi, c'est prévu pour donner une grosse dimension à la question de la COP21, avec des personnes qui viennent de partout pour parler de la COP21 et de la manière dont on peut se mobiliser sur la COP21 en fin d'année, le sommet sur le climat qui aura lieu au Bourget. Et aussi, en second plan aussi, des questions qui sont préoccupantes pour nous aussi, la question du retour de l'extrême droite et du confusionnisme, des théories du complot, etc. Voilà. Et la dernière journée, le vendredi, sera axée intégralement sur la question du nucléaire, avec les différentes luttes. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas seulement l'enfouissement des déchets nucléaires, il y a la lutte contre les centrales nucléaires, il y a la lutte contre les lignes à très haute tension. Et toutes ces questions-là, en fait, sont transversales pour nous. Donc voilà, ça, c'est les grands axes de discussion. Il y a beaucoup d'autres discussions et on a prévu la programmation pour que tout le monde puisse y investir. C'est notre volonté d'ouverture et aussi de partage, c'est que tout le monde puisse proposer des discussions dans le cadre du programme, selon les préoccupations des uns et des autres. Et chacun est libre de participer à ces discussions. En plus de cette programmation, il y a plein de choses qui sont prévues en dehors du campement. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie que ce soit simplement que ce soit un entre-soi. On a envie de pouvoir sortir du campement avec des balades qui sont organisées, des rencontres, des bouffes, des cantines collectives avec les personnes dans les villages. Et les personnes de l'extérieur sont aussi invitées à venir dans le camp sur les discussions. Le camp, il est ouvert pour ça. Voilà, le détail du programme.
Donc moi, je vais vous dire un peu pourquoi on a choisi Bure. Parce que le projet, il était préalable à Bure. C'est-à-dire qu'avant même que Bure se détermine comme endroit où on voulait construire quelque chose, on avait envie de construire un moment cette année qui échappe un peu à l'agenda habituel des grandes rencontres internationales et des grands moments. Il y a le sommet climatique à la fin de l'année, mais il y a aussi un certain nombre d'événements qui se passent tout au long de l'année. Et nous, on avait envie de poser un moment qui serait un peu un entre-soi aussi, un moment où on pourrait se poser et revenir un peu sur les luttes récentes et les perspectives de la lutte dans les temps à venir, en fait. Donc le choix de Bure, il s'est posé tout simplement parce qu'il y a des gens en lutte ici qui avaient envie que ce projet puisse avoir lieu ici et qui pouvaient nous donner aussi les moyens d'accueil ici, en fait. Donc pour nous, c'était une grande chance de pouvoir amener notre projet ici parce qu'on avait les conditions d'accueil pour le faire. Et puis par ailleurs, très rapidement, on s'est dit aussi que c'était un très bon choix du point de vue que le projet CIGEO est tout simplement emblématiquement, symboliquement, tout à fait représentatif du système contre lequel on se mobilise et on se bat, en fait. C'était pour nous la possibilité de renforcer une lutte locale, parce que c'est important pour nous de pouvoir renforcer une lutte locale, de par notre présence, de faire que le projecteur se braque un peu sur ce qui se passe ici, que dans un endroit qui est peu peuplé, il y ait un certain nombre de personnes qui viennent durant 10 jours, qui puissent du coup s'imprégner de la réalité locale qui est peu connue, enfin grâce au 49.3 elle est mieux connue, mais du coup c'était vraiment donner la possibilité à beaucoup de monde dans les temps à venir de se mobiliser contre un projet qui pour nous est quand même un des plus grands projets actuellement en Europe d'aménagement du territoire, puisqu'il concerne plusieurs départements, la Meuse, la Haute-Marne et les Vosges. La question après du nucléaire, pour nous, elle était primordiale parce que c'est symbolique de notre façon de produire et de consommer. Et pour nous, c'était important de questionner l'inconséquence face à l'avenir et à la planète sur la question du nucléaire. C'est-à-dire qu'on a ici une logique qui ignore totalement la finitude de l'histoire et les limites du vivant. C'est-à-dire qu'on a vraiment le projet nucléaire, lui, ne tient pas compte de l'avenir et ne vit que dans le présent, en fait. C'est de l'enfouissement sur le moment présent sans se demander. Enfin, pardon. Ouais. Donc, pour nous, on réaffirme catégoriquement notre volonté d'un arrêt immédiat du nucléaire. Voilà. Ce qui nous paraît révoltant, c'est de transformer la Meuse en poubelle nucléaire. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous révolte, qui est symbolique de la façon dont les gouvernants imposent les projets dans les différents endroits du territoire et de dissimuler toutes les conséquences que ces projets amènent. Sans aucune garantie pour les personnes, sans s'assurer que les personnes qui habitent sur ce territoire soient au courant des conséquences réelles de ces projets. Voilà. Et donc pour...
Du coup, une dimension qui est importante aussi, du coup, dans cette lutte spécifique, c'est le lien qui se construit avec les associations. J'en ai parlé tout à l'heure avec la première journée, mais ça ne s'arrête pas une journée. Le camp, il s'est construit sur une année. Pendant cette année, pendant une partie de cette année, on a pu rencontrer les personnes qui vivent ici, pas seulement les personnes qui luttent, les gens qui vivent ici. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas s'imprégner d'une lutte, on ne peut pas prétendre enrichir une lutte sans en comprendre les composantes, sans comprendre aussi les rapports qu'il y a entre les personnes ici, la dimension sociologique, en fait, d'une façon générale. Et du coup, il y a un lien qui est fait, une rencontre, une discussion, un dialogue avec les associations qui en est qu'au début. C'est loin d'être abouti. Il y a beaucoup de choses à réaliser ensemble. Il y a beaucoup de craintes aussi à dissiper qui pourraient exister par rapport à ce qu'on est les uns les autres et ce qu'on porte pour réussir à construire des choses ensemble. Du coup, il y a un lien qui est fait avec les associations qui sont ici et peut-être éventuellement il sera possible après de présenter ces associations.
Donc, on voulait vous lire un peu notre conclusion parce que ça nous semblait plus complet si on vous le lisait que si on tentait de le reformuler. Donc, notre position politique est claire, nous sommes pour l'arrêt total du nucléaire. Nous rejetons l'idée qu'une croissance perpétuelle est viable et nous estimons qu'il est plus que temps d'arrêter de produire au-delà de nos besoins vitaux. Nous nous opposons à tous les projets répondant à des logiques financières plutôt qu'à nos besoins réels. Et avec la même détermination, nous nous opposons à toute forme de domination, d'impérialisme ou toute volonté d'opposer les peuples les uns aux autres, ainsi qu'à toute forme d'autorité de contrôle sur nos vies.
Dans nos vies et dans nos luttes, nous construisons des rapports basés sur la confiance mutuelle, la réciprocité, sur le partage et la solidarité. Nous développons des espaces de liberté au sein desquels priment l'autogestion et le partage des responsabilités, où les rapports marchands sont bannis et où chacun doit pouvoir s'épanouir sans considération de son orientation sexuelle, de son genre, de son origine ou de sa couleur de peau, de son apparence ou de ses handicaps. La justice et la sécurité dans ces espaces se pensent collectivement, en dehors des réflexes sécuritaires ou punitifs, pour ne pas reproduire les schémas qui engendrent irrémédiablement la même conséquence, c'est-à-dire le totalitarisme, qu'il s'assume en tant que tel ou qu'il se cache sous les apparats de la démocratie.
Et on voulait rappeler que les événements récents liés, par exemple, à l'article 49.3 de la loi Macron, enfin à la loi Macron qui a été passée en force à l'aide du 49.3, montrent bien que, en fait, toute opposition est vaine dans le sens où les décisions viennent d'en haut et que, en fait, de toute façon, les dirigeants vont prendre les décisions à la place des personnes que ça concerne. On voit aussi le même exemple en Grèce, actuellement, par rapport à ce qui se passe. Et on voulait dire aussi que... On voulait dire aussi que souvent on nous présente comme des écervelés pour en partie nous séparer du reste de la population et que souvent on ne présente pas vraiment les arguments que nous on est capable d'amener et qu'on pense qu'on a bien plus de points communs avec la majorité des gens que les dirigeants qui prennent des décisions pour tout le monde et que du coup on a tout à gagner à trouver la force ensemble de s'organiser par nous-mêmes sans répondre à ces logiques de hiérarchisation. Et on voulait préciser aussi que on a l'impression qu'avec ce système, enfin, on sait par expérience que toute négociation avec ce système est perdue d'avance et que on refuse les compromis avec les institutions qui nous mettent face à des décisions qui sont prises eux-mêmes et qu'on met en œuvre au jour le jour d'autres types d'actions pour arriver à élaborer un monde dans lequel on a envie de s'épanouir tous ensemble.
Du coup, la volonté collective, c'est tout simplement de reprendre en main nos existences, et ça, c'est extrêmement important, et aussi de désobéir aux vendeurs d'armes ou aux capitaines d'industrie qui payent les salaires, à raconter tout simplement d'autres histoires que celles qui nous sont souvent beaucoup trop souvent contées, parce qu'on pense qu'il est temps, plus que temps. C'est peut-être quelque chose qui se répète régulièrement, mais pour nous, c'est toujours aussi le temps de véhiculer une autre vision du monde et de la vie aussi, que celle fataliste et austère des visages pâles du capitalisme. Ça veut dire de ceux qui prennent des décisions et qui considèrent que l'intérêt général, c'est d'imposer l'austérité et des logiques en fait, qui ne nous correspondent pas. Voilà, donc c'est ça, on est sincèrement convaincus qu'on peut faire les choses par nous-mêmes et qu'en fait, les rares fois où c'est mis en œuvre, on se rend compte qu'en fait, on y arrive beaucoup mieux que ceux qui dirigent à notre place. Quoi.